Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, le culte que nous offrons au Seigneur, c'est tout ce que nous venons de faire. Hein? Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est rien, puisque je suis un serviteur inutile, je m'en vais. Ce qu'elle a dit, hein? Mais bon, si vous insistez, je reste. Pour vous parler de la bonne main de Dieu. Tu as foi, Viviane? Tu veux ma place? Mais ça réchauffe hein, ici. Hein. Vous savez, quand nous faisons des vœux au début d'année, c'est vrai, nous pensons à nous. Hein. Quand nous nous levons le matin, nous partons travailler, nous pensons à qui, à Dieu ou à nous? Est-ce que je me dis, je vais travailler, mais je vais témoigner, je vais rendre grâce à mon Dieu, je vais à l'école, mais je vais louer mon Dieu, je vais rendre grâce à mon Dieu pour ce qu'il est, ce qu'il fait? Non. Quand nous vivons, nous nous levons chaque matin, nous prions Dieu parce que c'est une formalité. Mais avant tout, c'est que mes projets réussissent. Vrai ou pas? Et oui, c'est moi d'abord. Mais je me suis posé ces questions que je vous pose. C'est pas question ni oui ni non. Hein. Mais avez-vous déjà vu la main de Dieu dans votre vie? C'est oui, hein? Beaucoup. Mais c'est souvent quand on regarde dans le rétroviseur de notre vie, on se dit, oups, on a échappé belle. C'est tout au volant. Il y en a des deux endroits où on peut connaître quelqu'un, c'est au volant et puis chez lui. Demandez à son épouse ou à son époux. Mais si Dieu arrêtait de nous faire grâce, si Dieu retirait sa main, est-ce que nous serions conscients finalement que ce Dieu-là existe dans notre vie? Et pour bien le connaître, il faut le trouver, il faut le chercher. Toutes les nations prient, même ceux qui ne croient pas en Dieu disent « je prie ». Et j'ai rencontré une fois une dame qui m'a dit, je ne prends même pas la peine de prier, avant même que je prie, Dieu m'a déjà béni. Mais tout le monde prie, mais on prie qui? Que Dieu bénisse l'Amérique, vous avez déjà entendu ça? Mais quel Dieu? Tous ceux qui se flagellent ici et là, qui ont des idoles, des divinités ici et là, disent je prie au nom de. Mais connaissez-vous le vrai Dieu, celui que vous priez, celui qui s'appelle l'Éternel? Nous cheminons gaiement, j'ai envie de dire jour après jour, année après année, et puis on se demande en bien réfléchissant si c'est notre travail ou bien si nos promotions, nos entreprises que nous mettons en avant. Et là on se dit oui, la main de Dieu est là. J'ai travaillé, Dieu m'a béni. Mais c'est plutôt l'inverse. Notre vie n'est jamais ce qu'on espérait et il nous arrive pour autant de nous plaindre la plupart du temps. Parce qu'on n'a pas vu la main de Dieu. Parce que ce qu'on voulait avoir vraiment là, l'épouse qu'on voulait avoir, le mari qu'on voulait avoir, les enfants qu'on voulait avoir, mais c'est pas ce qu'on a. Et nous faisons exactement comme Israël, on murmure. Jusqu'au jour où il nous arrive d'avoir un peu les yeux ouverts et puis dire « Ah, Ebenezer, jusqu'ici, qui c'est qui parle? L'Éternel ne vous a pas secouru jusqu'ici? Oh là là !» L'Éternel nous a secourus. Il a mis sa main. Moi, j'ai un collègue, et une fois, il rentrait de service et il nous a dit, il sentait que la voiture descendait dans un fond. Et effectivement, il s'est réveillé, il avait pris sommeil au volant, la voiture descendait dans un fond. Il n'a jamais pris sommeil au volant. Parce que dès ce jour-là, il gardait les yeux bien ouverts. Dieu est un Dieu de communication et nous devons avoir les oreilles aussi ouvertes. Autrefois, il a parlé par les prophètes et dans ces temps qui sont les derniers, dit la Bible, il a parlé par le Fils. Merci, frère. Et nous qui nous disons enfants de Dieu, et quand je dis enfants de Dieu, nés de nouveau, est-ce que nous savons entrer en contact avec le trône de Dieu? Quand on dit j'ai prié ou bien je prie, est-ce que je connais celui que je prie? C'est une question, hein? Parce qu'il n'y a pas 50 moyens d'entrer en contact avec Dieu. C'est la lecture de la parole et puis la prière, entre autres. Et dans la vie de l'Église, on apprend à mieux le connaître à travers les autres. Mais nous avons sa parole. Et nous avons la prière. Mieux le connaître exige de passer du temps avec Dieu. De passer du temps dans la parole. Et pour cela, il nous faut nous déconnecter de tout ce qui nous passionne pour l'écouter parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Vous connaissez Esdras? Allô? Je vous invite à trouver Esdras, au chapitre 7. Et nous verrons à partir de la vie d'Esdras quelques leçons. Esdras, à partir du chapitre, au chapitre 7, à partir du verset 1er. Il dit, après ces événements, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, survint Esdras, fils de Seraïa, fils d'Azaria. Je vous passe la liste, mais je vous laisse lire chez vous pour ceux qui cherchent un prénom pour leur enfant. Et nous allons au verset 6. Cet Esdras, monta de Babylone. C'est un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il demandait. Certains des Israélites, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers, des Néthéniens, montèrent aussi à Jérusalem la septième année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Il avait fixé le départ de Babylone le premier du mois et il arriva à Jérusalem le premier du cinquième mois. La bonne main de son Dieu était sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. Il s'était appliqué. La reprise des travaux, le texte commence avec « après ces événements ». Et on se dit, mais quels événements? Parce qu'il vous faut lire tous les 6 premiers chapitres pour bien comprendre. Il est question de la reconstruction du temple de Jérusalem et la remise en place des lois cérémonielles et tout ce qui était réforme sociale et autres qui avait été abandonné. Ça a été remis en place sous la conduite d'Esdras, mais qui avait reçu mission d'un roi non-juif, un roi païen. Et ça, ce livre m'épate parce que nous allons étudier tout à l'heure au moins 5 fois, si ce n'est pas plus, l'expression « la bonne main de Dieu » revient dans 2 chapitres. Et c'est une expression qu'on retrouve depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. 60 années, 50 à 60 années séparent le chapitre 6 du chapitre 7. 50 à 60 années, c'est même pas l'âge de beaucoup ici. Mais selon les calculs, nous avons une idée très large de ce que Esdras a pu rassembler comme information et comme bénédiction pour aller reconstruire le temple de Jérusalem. Alors que savons-nous de Esdras, dont le nom signifie aide de l'Éternel ou celui que l'Éternel aide? Il était du clan des sacrificateurs, de la descendance d'Aaron, frère de Moïse, un juif exilé à Babylone, on ne sait pas pour combien de temps. Mais il était au service du roi de Perse. Et nous ne savons pas, parce que la Bible ne dit pas, l'intimité qui existait entre ce roi de Perse et Esdras. Mais certaines versions disent que Dieu a fait trouver un tel prestige aux yeux du roi vis-à-vis d'Esdras. Et ça nous fait réfléchir dans notre témoignage. Que tout ce que demandait Esdras, le roi lui a accordé. Et même au-delà. Un roi païen qui se comporte comme Dieu, voire plus, vous allez voir tout à l'heure. Mais il y avait aussi d'autres juifs en exil à Babylone et Esdras travaillait avec ces juifs. Le verset nous dit qu'il s'appliquait à enseigner, étudier et enseigner la pratique de la loi à ces juifs pour les ramener à Jérusalem. Au verset 6 et 10, nous avons ces deux éléments-là importants concernant Esdras. Il était scribe, un homme versé dans les Écritures, et fort de cela, la bonne main de Dieu était sur lui. Combien de temps je passe dans la parole de Dieu? À la lire. Vous savez, quand nous recevons les prospectus de publicité à la maison, on prend le temps de lire. Hein? On ne sait jamais, hein? Il y a une bonne affaire. Mais la parole de Dieu a tellement de bonnes affaires. De jolis cours. Et la bonne main de Dieu étant sur Esdras, Dieu lui faisait trouver faveur et grâce aux yeux du roi. Je rappelle, un roi païen. Le deuxième élément, c'est au verset 10. Et j'aime beaucoup ce verset 10 parce que il me donne un bel exemple, Esdras. Il s'appliquait à chercher la face de Dieu, à étudier, à enseigner et à mettre en pratique les prescriptions divines et le droit, l'honnêteté, l'intégrité. Et c'est ce que Dieu attend de nous, n'est-ce pas? Être un bon exemple pour les autres. Et Esdras nous rappelle un certain Samuel, vous vous souvenez, qui a grandi avec Élie, le prêtre. Il est dit de Samuel qu'il grandissait et l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune parole. Est-ce qu'il nous arrive de faire un tri sélectif dans la parole de Dieu? Ça, c'est pas là, ça, c'est pas là, ça, c'est pas là. C'était pour l'Ancien Testament, ça, c'est pour moi, ça, c'est pas pour... Avec Dieu, c'est tout ou rien. Et alors nous faisons, je répète, des vœux. Si nous voulons que la bonne main de Dieu soit sur nous, appliquons-nous à nous arrêter. C'est ce que nous dit le psaume premier, qui a été rappelé dimanche dernier et encore. Heureux celui qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants, mais qui s'arrête sur la voie de Dieu. Pour faire quoi? Pour lire, pour méditer, pour étudier. Et Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite là jour et nuit. Qui n'a jamais pris sommeil en lisant la Bible? Vous prenez la Bible et brusquement vous avez sommeil. Ne lisez jamais la Bible couchée. La meilleure façon de prendre sommeil. Faites la lumière, faites tout ce qu'il faut, éteignez la télé, éteignez tout ce qu'il y a autour de vous, mais prenez le temps debout à lire la parole. Mais je vais déjà plus sommeil. Je dis souvent à ma femme, je vais lire. Mais on ne lit pas couché. Meilleure façon de prendre sommeil. Et donc, Esdras cherchait à connaître, à trouver la face de Dieu, Et ce Dieu-là, il avait une telle intimité avec lui, parce qu'il s'était déconnecté de tout ce qui était une passion pour lui. Et il recevait de la part de Dieu ce qu'il demandait. La deuxième leçon que je veux tirer, c'est qu'il nous faut sentir. Quelqu'un a dit ce matin, discerner. Le discernement, c'est un don dans la liste des dons. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Discerner, reconnaître la main de Dieu dans notre vie. Trop souvent, nous aimons nous donner gloire. J'ai étudié, j'ai prié, j'ai réussi. Et Dieu, finalement, il a fait quoi? La bonne main de Dieu est sur nous dans les situations les plus critiques. Souvent, quand nous sommes sur une route infernale, on va les deux pieds, les deux mains jointes, là, en enfer. Dieu a mis sa main de longue date pour que nous ne puissions pas tomber dans le gouffre. Reconnaître la main de Dieu dans notre vie. Les mains sont importantes, n'est-ce pas? Allô? si vous étiez manchot? Pour nager, pour manger. Il n'y a rien de pire hein, que quelqu'un qui vous donne à manger et puis il passe à côté. Mais Dieu veut que ces mains-là aident. On dit qu'il faut donner un coup de main. Les mains qui bercent un bébé en crise, qui fait sa crise dans son berceau. Et puis on pourrait épiloguer sur les mains, hein, dire des choses. Les mains qui caressent, les psychologues disent que les mains qui caressent ne doivent pas corriger, ne doivent pas taper. Et pourtant, les parents tapent bien leurs enfants, parce que la Bible dit qu'il faut corriger. Mais les époux tapent bien leur épouse, et vice-versa. La Bible dit ça? Je ne crois pas, je ne l'ai jamais vu. Mais aujourd'hui, je te caresse, demain, je te tape. Et nous avons dans la société des gens qui sont condamnés pour une gifle à l'hémicycle, là, dernièrement, ou bien des gens qui passent de procès en procès parce que il y a violence, et je ne parle pas des féminicides. Mais on n'est pas là ce matin pour parler des mains de l'homme, ni de la main de l'homme, encore moins du bras de Dieu, parce que la Bible parle du bras de Dieu, et la Bible va jusqu'à parler du droit de Dieu. Mais je vais parler de la main de Dieu. La main de Dieu, que l'on pourrait aussi traduire par ce petit mot en hébreu qui signifie chesed, la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, les compassions, la grâce de Dieu. Et tout cela, nous les voyons mentionnés d'un bout à l'autre de la Bible. Sœur Josiane Caprier, ce matin, vous dit merci de la grâce. Comment tu as dit ça? C'est une grâce d'être sous la grâce. J'ai aimé ça. C'est une grâce d'être sous la grâce. Parce que si vous n'avez pas encore connu la grâce, vous n'avez encore rien connu de la grâce de Dieu. Parce qu'il nous suit pas à pas. Et dans les chapitres 7 et 8 que nous allons survoler, pas moins de 6 fois, j'ai dit l'expression « la bonne main de Dieu revient ». Et la bonne main de Dieu, premièrement, pourvoit à tous nos besoins. Vrai ou faux? Tous les matins, nous nous levons, nous avons le pain et le café. Ne serait-ce que ça. Mais nous dit Seigneur merci parce que je mange rapidement, je suis en retard. La bonne main de Dieu pourvoit. Et lorsque tout est noir et sans espoir, Dieu vient à notre secours. Et des histoires où on pourrait vous raconter avec Georges Müller et bien d'autres. Souvenons-nous du père Abraham, c'est la première fois que l'expression Jéhovah Jireh est apparue, quand Dieu lui dit de sacrifier son fils bien-aimé, celui que tu aimes, alors qu'il avait déjà un. Et au moment où ils arrivent pour offrir le sacrifice, l'enfant dit à Abraham, qui est dans son silence, un silence qui tue, papa, il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? T'inquiète, mon fils, je gère. C'est ce qu'il a répondu. Il a dit non, l'Éternel pourvoira. Et il nous arrive de ne pas avoir de quoi manger dans le mois, de quoi payer le loyer à la fin du mois. Et on s'inquiète, on stresse, on panique. C'est normal, on est humain. Mais le Seigneur pourvoit, n'est-ce pas? Et l'Éternel est celui qui, chaque jour de notre vie qui passe, nous devance. Parce que s'il fallait attendre que toutes ces créatures aient crié à lui, je dis parfois, Dieu nous regarde du haut de ses yeux et dit, mais ils n'ont rien compris. Je suis avec vous. Je suis avec vous. J'ai déjà prévu toutes ces choses. Et si vous lisez tout l'Ancien Testament, Dieu parfois s'offusque de voir le peuple d'Israël murmurer. Il dit, mais pourquoi ce peuple murmure après moi? Pourquoi? N'ai-je pas fait ci, n'ai-je pas fait ça, n'avez-vous pas vécu ceci, cela? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. L'Éternel a déjà fait pour nous au-delà même de ce que nous avions demandé. Et parfois, il a utilisé, comme dans notre texte, un étranger pour nous bénir. J'ai été témoin perso de ces bénédictions. Dieu utilise un étranger, un collègue de travail ou quelqu'un d'autre. Dieu utilise un roi non juif qui insiste sur la priorité, sur l'objectif de la mission d'Esdras. Tu prends ça, c'est non discutable, non, comment on dit ça, négociable, et tu vas à Jérusalem avec tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, mais tu vas rétablir le temple et tu vas enseigner ton peuple pour ton Dieu. Lisez les versets 11 du chapitre 7 jusqu'au verset 26. Notez-le, lisez-le chez vous. Vous allez voir tout ce que le roi donne et exige de donner à Esdras. Et il dit au verset 26 que j'aime beaucoup, « Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu, et la loi du roi sera condamnée, soit à la mort, soit au bannissement, soit à une amende, et à la prison. » Il dit, le roi non-juif qui dit ça. Que le juif qui connaît Dieu doit obéir, sinon il est banni. Il dit, ne regardez pas, moi je suis païen. Mais Dieu va utiliser Artaxerxès comme il va utiliser Darius et Cyrus pour parler au peuple. Et Dieu va utiliser, s'il a utilisé un âne pour ramener Balaam à la raison, il peut utiliser n'importe qui pour parler à ses enfants que nous sommes. Encore faut-il discerner, reconnaître, sentir la main de Dieu dans tout ce qui se fait. Nous ne savons pas les relations que Esdras avait. Mais nous savons les relations que nous avons avec nos collègues de travail, les membres de notre famille, n'est-ce pas? Et là, ils nous observent. Est-ce qu'ils peuvent dire autant que pour Esdras, la bonne main de Dieu est sur lui? Tu peux lui faire confiance. Quand nous arrivons au travail, est-ce que nos collègues parlent de la même manière de nous comme ils parlent de leur patron? Ou bien nous sommes vus, perçus différemment, parce que nous avons un témoignage qui diffère. Et Dieu observe tout ça, Dieu sait. Une version dit, Dieu lui a assuré un tel prestige que le roi accorda tout à Esdras. La main de Dieu pourvoit en son temps, et comme il le veut. Et j'aime à dire, Dieu ne fait pas d'erreur. La deuxième chose, c'est que la main de Dieu est une main puissante. Nous l'avons dit ce matin. Et je pense à cette fillette à qui un monsieur étranger propose des bonbons. Et la petite de le regarder. Il dit, ah bon, t'aimes pas les bonbons, t'as peur des caries? Et il dit, si, j'aime les bonbons, mais je préfère que ce soit vous qui me les donniez parce que votre main est plus grande, plus puissante. Donc vous allez en prendre plus. C'est compréhensible, n'est-ce pas? Si je vais avec mes propres armes au combat, j'ai oublié Dieu de l'autre côté. J'ai oublié que la main de Dieu est puissante pour me libérer et me délivrer de tout assaut du malin, n'est-ce pas? Donner ce que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que nous avons reçu une telle puissance et nous négligeons cette puissance qui est au-dedans de nous. Vous savez, l'expression dynamite vient d'une expression grecque qui veut dire dynamis, issue du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous, n'est-ce pas? Nous nés de nouveau. Nous avons du dynamis, de la dynamite en nous et nous ne voulons pas exploser. Explosons! Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Nous sommes trop souvent de tristes chrétiens ou des chrétiens tristes. Alors que Dieu nous dit qu'il est puissant pour faire au-delà. Et plus d'une fois, Israël a été témoin de la main puissante de Dieu. Souvenez-vous des 10 plaies d'Égypte. Et en Exode chapitre 8, les conseillers de Pharaon disent, c'est la main de Dieu. Laisse aller mon peuple. Libère Israël, Pharaon. C'est la main de Dieu. Et du temps de Belshazzar, c'était le droit de Dieu. Méfions-nous, bien-aimés, de la main de Dieu. Parce que si Dieu a ouvert la mer Rouge, s'il a nourri le peuple d'Israël, Dieu nous interpelle aussi souvent quand nous disons mais Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié, Dieu m'a... Alors que nous vivons constamment dans le passé. Nous ne vivons pas dans le passé. À ressasser les choses que nous avons commises et puis nous nous disons est-ce que Dieu m'a pardonné, est-ce que... Alors que nous sommes là à aller de l'avant. Et Dieu veut qu'on aille de l'avant. Quelqu'un a parlé ce matin de marcher. Vous marchez à reculons? On marche de l'avant avec le Seigneur parce que avec lui, nous... Pas moi qui l'ai écrit, hein? Mais nous le lisons, mais nous ne pratiquons pas. Et c'est là tout le drame parce que Esdras s'appliquait à étudier et à faire appliquer la parole de Dieu. Il ne suffit pas de citer des versets. Il faut encore les vivre. Et donc, Dieu nous invite à aller de l'avant. Il interpelle Moïse et dit, est-ce que la main de l'Éternel est devenue trop courte pour sauver? Pourquoi ce peuple crie après moi? Pourquoi ce peuple rouspète, murmure? Et il nous arrive de murmurer, de dire, Ah, Seigneur, tu as béni un tel et moi je vois rien. Le psaume 138 dit, verset 3, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Dieu n'exauce pas nos prières. Dieu ne répond pas à nos demandes. Il y a besoin et puis désir. Hein? Si tu désires des choses dont il n'y a pas besoin, mais Dieu donne ce dont nous avons besoin. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Alors, ne fonctionnons pas comme Israël, parce que la parole de Dieu nous dit qu'Israël n'est pas un exemple à suivre. Vous l'avez déjà lu, n'est-ce pas? Israël n'est pas un modèle. Les temps sont difficiles pour certains, je le sais, mais les temps de miracle n'est pas fini. Le temps où il faut arrêter de prier, c'est pas fini. Dieu n'a pas dit stop, c'est comme l'arbitre, tant qu'il n'a pas sifflé, tu joues. Nous sommes sans force, disait Josaphat, mais nos yeux sont sur toi. Parce que tu n'as pas cessé de poser ta main et d'étendre ta main sur nous. Troisièmement, la main de Dieu fortifie. Versets 27 et 28 du chapitre 7. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à donner une telle splendeur à la maison de l'Éternel à Jérusalem et qui a étendu sur moi sa bienveillance ou sa main, ses conseillers et sur le roi et sur tous ses ministres puissants Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël pour qu'ils montent avec moi à Jérusalem. Fortifié. Quand nous sommes fatigués, Dieu nous fortifie. Et quand nous sommes fortifiés, nous sommes un canal pour les autres, un canal de bénédiction, n'est-ce pas? On dit, mets-toi debout, bats-toi, lève-toi et puis avance. Au lieu de rester la face contre terre dans la boue. La main de Dieu fortifie. Ta douleur est peut-être immense. Et toi seul sais l'immensité de cette douleur. Mais Dieu soulage, il réconforte. Et dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, il est dit ainsi, parle l'Éternel, c'est dans le retour à Dieu. Reviens à Dieu. Arrête de courir à gauche et à droite. Arrête de donner place à tout sauf à Dieu. C'est dans le retour à Dieu et dans le repos que sera le salut et dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, verset 15. Arrêtons de courir partout. Arrêtons de nous agiter. Arrêtons de nous fatiguer. Et donnons à Dieu la place qu'il lui faut. Amen. Dieu promet de faire des grandes choses pour nous, n'est-ce pas, et par nous, des gens extraordinaires. Mais il faut revenir à notre premier amour. Vous vous souvenez, lors de votre conversion, ah, qu'est-ce qu'on était zélé. On avait envie de renverser le monde. Et puis, comme la grenouille dans l'eau, on s'est fatigué. On est resté là et on a pris sommeil. Je pense à ses disciples sur la montagne de la transfiguration dans Matthieu 17. Ils sont là à dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on est bien ici? On va dresser des tentes pour Moïse, pour Élie, on va rester là et puis tranquille. Personne ne va nous embêter. Et puis il y a un nuage qui les enveloppe. Ils entendent la voix de Dieu, ils tombent sur leur face et une main les touche pour les fortifier, pour les rassurer. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il n'y a pas 50 fils bien-aimés. Il y a un seul et il faut le connaître. Il faut le sentir dans sa vie, dans sa marche. Il faut l'avoir rencontré. La Bible dit plus d'une fois, soyez sans crainte. Et c'est ma question, quand est-ce la dernière fois que tu as senti la main de Dieu posée sur toi? Pour te dire, sois sans crainte, sois fortifié. J'ai une pensée pour tous ceux qui souffrent, hein, qui passent par des épreuves de toutes sortes. Et j'ai une pensée, nous avons une pensée accrochée dans nos toilettes, à la maison, qui dit, lorsque tu es inconsolable, Dieu essuie tes larmes. Lorsque la douleur est immense, il te soulage et te réconforte. Lorsque tes parents et tes amis t'abandonnent, Dieu t'offre son amour. Lorsque tes forces te manquent, il redonne vigueur et force à tes os. Lorsque ton chemin est pénible, rocailleux, Dieu te tend la main pour te diriger. Cherche Dieu et tu le trouveras parce qu'il serait trouvé par celui qui le cherche. N'est-ce pas? Je n'invente rien, tout est écrit là. Lisez la parole. Lisons la parole. Quatrièmement, la main de Dieu conduit des assistants, des collaborateurs pour aider, encourager Esdras, tout comme nous. Chapitre 8, verset 15 à 18, il y a toute une liste, il y a comme une pause dans la marche. Et Esdras observe que dans la liste de tous ceux qui le suivent, il n'y a pas de Lévite. Et si vous connaissez l'histoire de l'Ancien Testament d'Israël, les Lévites avaient un rôle important. Et puis, il demande à Dieu et le Seigneur lui envoie au moins 18 Lévites. Et il dit, c'est pas rien, c'est pas grand chose. Et je pense à notre en Martinique, parce qu'il ne faut jamais mépriser les petits commencements, ni avoir folie des grandeurs. Il y a quelques années, nous avons commencé la construction d'un temple parce que la salle était devenue trop petite. Quand on a commencé, on s'est dit il faut une salle pour 400-500 personnes. Et pendant la construction, on a vu, ouh, c'est immense. Comment on va faire pour remplir cette salle et comment on va faire pour payer les travaux? Et Dieu a pourvu, chers frères et sœurs. Non seulement on a fini les travaux, on a fini de payer le bâtiment bien avant la période prévue par la banque, mais nous sommes passés de 125 à 400, 500, 600 personnes. Il s'est posé un problème de sécurité. Et comme il se posait aussi une certaine scission au sein de l'église, on voulait plus rester là, on voulait plus aller là, l'église n'est pas divisée. Et mais ça a résolu le problème, la brèche s'est colmatée toute seule. Au lieu de fermer une salle pour avoir une grande salle, on a gardé les deux salles. Et les deux fonctionnent. Dieu nous a envoyé des musiciens, on s'est retrouvé à 16 monitrices. Dieu a béni des prédicateurs et Dieu fortifie. Dieu envoie des collaborateurs, des assistants pour fortifier Esdras et fortifier ceux qui étaient là. Cinquièmement, la bonne main de Dieu délivre du danger dans l'épreuve. Chapitre 8, versets 21 à 23. La main de notre Dieu, je vais lire plutôt plus haut. Là, près du fleuve d'Ava, je proclamais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin de lui demander un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, pour tous nos biens. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Pourquoi chercher ailleurs ce que nous avons sous la main? J'ai envie de dire, vous n'avez pas honte. Nous n'avons pas honte de chercher ailleurs alors que nous avons l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant. Esdras dit, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte, ce que le roi ne lui aurait pas refusé. Mais il préfère s'adresser à son Dieu dans le jeûne et la prière. Et quand on prie, quand on jeûne, quand on a confiance en ce Dieu-là, Dieu bénit. La bonne main de Dieu délivre du danger dans l'épreuve. On pourrait dire encore des choses sur la bonne main de Dieu qui fait tomber les écailles de nos yeux quand nous pensons être dans la bonne voie et puis on est complètement aveugle ou aveuglé. Souvent, j'ai une tante qui disait « L'amour rend aveugle. » Et le mariage rend la vue. Il faut savoir prier. Être à l'écoute de Dieu et ne pas foncer tête baissée. L'amour, la main de Dieu, pardon, purifie, guérit, affranchit le bien des pièges de l'ennemi. Discernons la main de l'ennemi de la main de Dieu. Et pour cela, il nous faut être là. Nous arrêter, nous déconnecter, pour être à chercher la face de Dieu. Souvenez-vous du verset 10. Esdras s'appliquait à étudier, à enseigner, à mettre en pratique la loi de Dieu. Nous pouvons écouter, et Jacques revient plus tard en disant, ne nous bornons pas à écouter, mettons en pratique. Je termine en disant, notre Dieu est tout suffisant, tout puissant pour pourvoir nos besoins, nous délivrer de l'ennemi, nous fortifier, nous protéger et imitons la foi de nos prédécesseurs. On peut citer Esdras, mais il y avait Néhémie, il y avait Samuel, il y avait Moïse, il y avait bien d'autres. L'apôtre Paul, Jésus-Christ, il n'a pas bronché. Nous avons de bons exemples dans la Bible. Et nous avons de bons exemples autour de nous. Si nos parents n'avaient pas été de bons exemples dans la foi, nous ne serions pas là. N'est-ce pas? Parce que c'est grâce à leur évangélisation menée de bout à l'autre, là où aujourd'hui nous dormons, l'après-midi, nous faisons la sieste, ils étaient sur le terrain. Proverbe chapitre 21, verset 1, et je termine avec cela, dit « Dieu tient tout, et je l'ai mis en majuscule, Dieu tient tout dans sa main puissante. » Quand on est fortifié par ce Dieu-là, on devient un canal de bénédiction pour les autres. Soyons un canal, des canaux de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Amen.
Amen.
Que Dieu nous aide.